une petite route de l'Arizona dans le sud-ouest des États-Unis. Jim est persuadé que l'apocalypse est pour bientôt et il se prépare activement pour y survivre. Personne ne doit savoir où nous nous rendons.
Je porte un masque et je garde ma planque secrète. Comme ça, en cas de crise, je n'aurai pas à redouter les pillards. Alors là, je vous emmène dans un endroit prévu pour se retrancher dans la pire des situations. C'est très isolé ici. Et on ne sait jamais sur quoi on peut tomber quand on monte par là.
Après avoir arpenté toute la région, Jim a repéré ici, il y a quelques années, un refuge en prévision de la catastrophe qu'il redoute.
Si j'ai choisi cet endroit, c'est parce que c'est de la bonne roche bien solide. Là, ce sera l'entrée, et moi, je serai dedans, tout au fond.
Il vient régulièrement vérifier que l'entrée des boyaux souterrains de cette ancienne mine d'or reste accessible.
Il y aura un gros déluge, des raz de marée, des tremblements de terre, tout un tas de désastres qui vont balayer une bonne partie de la population. Et je me considère vraiment comme un de ceux qui survivront. J'aime cette idée. Ce sont les meilleurs qui restent. Non, je plaisante.
Jim est fin prêt pour son scénario catastrophe. Un scénario que nous avons tous pu voir récemment au cinéma.
Regarde pas derrière, regarde-moi, j'ai l'air d'avoir peur.
Chute de météorites, tremblement de terre, cataclysme en série. Le film 2012 a été un grand succès dans le monde entier.
C'est la fin du monde, les amis.
Un alignement inédit des planètes provoquerait la catastrophe. L'histoire est basée sur une ancienne prophétie maya qui n'a aucun secret pour Jim.
Les prophéties sur 2012 et les prophéties des Indiens Hopi indiquent que c'est dans cette région qu'on sera le plus à l'abri. Et comme vous voyez, ici, il peut arriver des millions de mètres cubes d'eau sans que l'on soit menacé. On ne sait jamais, peut-être qu'il me faudra construire une arche.
Jim pourrait passer pour un farfelu isolé, mais en réalité, il est loin d'être seul. Un simple coup d'œil sur Internet permet de le vérifier. Aux États-Unis, ils sont des milliers comme lui à s'exprimer sur des dizaines de sites. Tous persuadés que la fin du monde est pour dans 3 ans, le 21 décembre 2012 exactement. Il y a même un compte à rebours qui indique le nombre de jours qui nous reste à vivre. Pour s'en sortir, il ne suffit pas d'avoir un refuge secret. Il faut aussi posséder toute la panoplie du parfait survivant. À Phoenix, la 5e ville des États-Unis, Jim, notre survivant masqué, a un ami, Dennis, qui lui fournit tout son attirail de survie.
Ça, c'est le paquetage d'urgence, avec tout ce qu'il faut. On le prend et on se sauve.
Dennis vend par correspondance toutes sortes d'articles pour survivre. Du sac à dos aux compléments alimentaires, en passant par les couteaux suisses, les boussoles, les talkie-walkie ou les appareils de positionnement GPS.
Ça, c'est un briquet d'urgence, un truc que j'aime bien garder tout le temps sur moi.
Tu la secoues et ça marche tout seul, comme ça.
Dennis surfe sur la notoriété du film 2012 pour vendre ses produits sur son site internet. L'idée de ce business lui est venue lors de la dernière catastrophe annoncée, le fameux passage à l'an 2000.
En 1999, je travaillais pour un grand magasin de bricolage. On craignait le bug de l'an 2000 et on s'est retrouvé en rupture de stock de groupes électrogènes. Je me suis dit, la prochaine fois qu'un événement pareil doit se produire, je dois être celui qui en tirera profit.
Dennis a plaqué un bon job pour monter son affaire. Et ça marche. En 3 ans, il est parvenu à gagner largement de quoi faire vivre sa famille de 2 enfants. 2012, une source de profit pour lui, mais aussi une vraie conviction personnelle.
J'ai amélioré mes connaissances et ma clairvoyance au cas où j'en aurais besoin en 2012. Ça a complètement changé ma vie. On a des réserves de nourriture, de quoi cuisiner, de l'éclairage, une trousse de premiers soins et des masques à gaz.
Denise a même entraîné ses enfants à respirer dans un masque à gaz. Après la catastrophe, il faudra bien repeupler la planète avec les survivants. Pas d'inquiétude, Jim et Denise ont tout prévu. Ils ont déniché le site idéal à 200 km de chez eux. En cas d'embouteillage et de panique générale, ils savent qu'ils pourront même couper par cette petite route de service.
Je suis vraiment inquiet à cause des émeutes, de la panique, des gens qui n'auront rien préparé. Et je serai peut-être obligé de me battre pour arriver là-haut. Donc j'ai prévu un plan A, puis un plan B. Est-ce que je souhaite que ça arrive? Non. Est-ce que je suis prêt? Oui.
À 2000 mètres d'altitude, Jim a acheté ce terrain de plusieurs dizaines d'hectares. Avantage, il n'y a qu'une seule route d'accès et la situation permet de surveiller toute la vallée. C'est ici qu'ils rebâtiront la civilisation, avec les quelques familles qu'ils ont déjà recrutées sur Internet.
Allez, faut qu'on déplace tout ça, là.
Depuis plusieurs années, Jim accumule ici tout un tas d'objets hétéroclites qui pourraient s'avérer très utiles dans 3 ans.
Ça, ce sont des matériaux de construction dont j'aurais besoin. Avec ce que j'ai là, je peux construire une maison entière.
On a dégagé des terrains pour que les familles amènent leur matériel et se réinstallent. Ça dépendra de ce qu'ils ont à offrir, parce que l'important, c'est qu'on ne veut pas de ceux qui n'auront rien, ni provisions, ni savoir-faire. Ils mettraient la communauté en danger.
La fin du monde, une peur aussi ancienne que l'humanité. Mais ces dernières années, le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, alimenté par les crises majeures. Attaques terroristes, conflits armés, crise financière, risque d'épidémie mondiale, ouragans, cyclones, dérèglements climatiques. La menace semble venir de partout. Les fantasmes paranoïaques s'emballent. À Hollywood, les films catastrophes s'en inspirent et nous rappellent régulièrement que la planète est en sursis. La dernière tendance, c'est de nous montrer comment les hommes peuvent survivre après une catastrophe majeure, comme dans La Route, un film qui raconte l'errance d'un père et de son fils dans une Amérique dévastée.
Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie?
Dans le monde? Pas beaucoup.
Tout juste sorti sur les écrans, le livre d'Eli ressuscite la vieille angoisse du cataclysme nucléaire.
Il y a 30 ans, la guerre provoqua un trou dans le ciel.
Cette croyance en la fin du monde porte un nom, le survivalisme. Une tendance qui est en train de devenir un mouvement d'opinion. Joel Skousen en est l'un des principaux théoriciens. Il ne croit pas aux prophéties mayas sur 2012, mais craint des dangers beaucoup plus concrets.
Le film 2012 a créé des peurs qui amènent des gens vers le mouvement survivaliste. Mais il y a d'autres menaces plus réalistes. Les révoltes sociales qui vont accompagner la crise. Et surtout, à long terme, le péril qui m'inquiète le plus, c'est celui d'une guerre contre la Russie et la Chine. Là, j'ai fait une projection de la manière dont les réactions de panique vont se répandre à partir des sites ciblés par les attaques nucléaires.
Survivre en 10 leçons, comment protéger sa maison, ou encore le guide des endroits les plus sûrs aux États-Unis. Joel Skousen publie des livres très pratiques et il est devenu un consultant très écouté. Son conseil numéro 1, vivre loin des zones de forte population.
Là, c'est ce que je considère comme la zone la plus sûre des États-Unis. Les montagnes de l'Ouest. L'altitude est élevée, il y fait froid en hiver. Les gens du Sud n'aiment pas le froid et ne viendront donc pas par ici. Et c'est entouré de déserts, ce qui rend la zone difficile d'accès aux autres populations voisines.
Le cœur de cette zone la plus sûre des États-Unis, c'est l'Utah. Ici, dans la vallée de Sand Pit, il existe déjà une communauté de survivalistes. Ils ont quitté la ville il y a 20 ans pour créer le Ranch de la Liberté. L'accès est interdit aux curieux. Une quarantaine d'habitants y vivent en autarcie dans une dizaine de maisons isolées et autosuffisantes en eau et en énergie. Ils sont coupés du monde et aucun de ces futurs survivants n'a accepté de nous recevoir, à l'exception du dernier arrivé. Sterling Allan a choisi de se réfugier dans cette vallée avec sa famille il y a quelques mois, inspiré par des prédictions locales.
J'ai passé toute ma vie à me préparer à ces choses, toute ma vie d'adulte. Il y aura des poches de survivants à travers le monde. Les gens appellent cela les cités de lumière. Il y a quelques légendes ou prophéties qui citent la San Pete Valley comme un endroit de regroupement, une zone de sécurité. Des gens qui ont eu des visions de la vallée entièrement remplie de tentes, avec des gens venus comme des réfugiés des destructions des villes.
La San Pete Valley deviendrait alors le sanctuaire des survivants. Et Sterling a déjà pensé à la manière de le défendre.
Ce serait bien de pouvoir surveiller les entrées et d'avoir des guetteurs pour les pillards, parce que les rôdeurs viendront quand les choses vont se gâter. Être nombreux, cela permet d'avoir des sentinelles la nuit pour lancer l'alerte. C'est facile aussi d'isoler complètement la vallée. Avec un petit peu de dynamite, on peut en bloquer les accès.
Sterling prépare déjà toute sa famille à survivre à un futur incertain. Et il en a même fait son métier. Il est ingénieur et dessine des maisons autonomes qui consomment le minimum d'énergie.
On essaye de combiner l'écologie avec l'esthétique et le confort. Un des avantages de préparer les choses avant que tout s'écroule, c'est que l'on pourra la vivre mieux une fois que ce sera arrivé, plutôt que de vivre dans des tentes ou dans des cartons. Ça ne risque pas d'être très marrant après le grand cataclysme.
Pour suivre sa logique, il a décidé de ne plus envoyer ses enfants à l'école.
Suis simplement ces traits-là. C'est bien.
C'est sa femme, Chérie, qui leur fait la classe à la maison. Un choix courant chez les survivalistes, car ils n'ont aucune confiance dans les institutions publiques comme l'école ou le gouvernement. Ils tiennent à rester à l'écart du reste de la société, car ils considèrent que notre civilisation a déjà commencé à sombrer.
Ce dont j'ai le plus peur, c'est que notre pays s'effondre et que des guerres civiles arrivent, que le gouvernement n'ait pas le contrôle de la situation, que les gens se mettent à se battre pour la nourriture, ce genre de choses.
À l'abri dans leur communauté, ces futurs survivants ne sont pas seuls à avoir choisi de s'installer précisément ici. À moins d'un kilomètre de là, dans la même vallée, Paul Seyfried a trouvé la solution à toute épreuve. L'assurance survie clé en main pour la fin du monde.
Ça, c'est l'entrée.
The entrance.
Tout va bien.
S'il te plaît, papa. Fais pas ça.
Tout va bien.
Dans le film La Route, les héros découvrent cet abri souterrain qui va leur sauver la vie.
C'est quoi tous ces trucs ?
De la nourriture.
C'est ce type d'abri que construit Paul Seyfried. Là, c'est son plus grand modèle. Un cylindre en zinc de 15 mètres de long, enseveli à 4 mètres sous terre.
C'est assez comparable à un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Pas très spacieux pour chacun, mais un peu plus confortable.
Paul est ingénieur dans la construction aéronautique. Les abris, c'est son deuxième boulot. Il a tout prévu, même les radios à ondes courtes pour communiquer avec les autres survivants, ou bien des compteurs de radiation nucléaire et un système d'aération filtré qui peut fonctionner manuellement.
Chaque personne a de la place pour ranger ses affaires. Et ça, c'est le dortoir des retardataires.
Il a de quoi tenir pendant 6 mois pour 5 personnes, sans mettre le nez dehors, à l'abri des tremblements de terre, des tornades, des cyclones ou même d'une troisième guerre mondiale. Pour Paul, chaque foyer américain devrait avoir un tel refuge.
La plupart des gens sur la planète refusent de voir que l'on court à la catastrophe technologique. Ils ne se rendent pas compte que le temps d'une pause déjeuner, à l'autre bout du monde, des gens peuvent appuyer sur un bouton et lancer des milliers de têtes nucléaires sur les États-Unis.
Cela fait 25 ans que Paul construit ses abris à travers les États-Unis. Il en a vendu 300 à 30 000 euros pièce. Et à chaque crise majeure, son business décolle. Une chose est sûre, si en 2012 il n'en reste qu'un, Jim, notre survivant masqué, est certain d'être celui-là.
Si 2012 arrive et que le 1er janvier je suis assis là en vacances et qu'il ne s'est rien passé, j'aurai toujours à m'inquiéter pour le 2 janvier et puis pour le 3 et pour ce qui risque d'arriver encore après.
D'après les survivalistes, il ne reste qu'un peu plus de 1000 jours avant la fin du monde. Mais selon les scientifiques, la planète Terre a encore 5 bons milliards d'années devant elle, sauf accident.